Chers amis de Radio Courtoisie, bonjour, Olivier Figueras au micro. Vous me pardonnerez si je suis encore un peu essoufflé. Il y a aujourd'hui, nous sommes en direct, il y a aujourd'hui une course qui bloque un certain nombre de rues qui me permettent habituellement d'accéder à Radio Courtoisie. Et je suis arrivé il y a 3 minutes en courant parce que j'ai dû me garer assez loin. Voilà, je vous précise que je n'ai pas aujourd'hui près de moi ma complice Jeanne Smits, puisque elle est occupée par ailleurs et qu'elle n'a pas pu me rejoindre dans ce studio. Mais ça n'est pas grave, enfin si, ça l'est d'une certaine façon, mais ça n'est pas définitivement grave, puisque nous allons pouvoir faire cette émission tout de même, je l'espère, avec autant d'intérêt que nous essayons de consacrer habituellement à ces émissions. Et je reçois aujourd'hui, ce n'est pas un inconnu pour vous, vous l'avez déjà entendu de nombreuses fois, je reçois Reynald Secher. Bonjour Reynald.
Bonjour Olivier.
Et donc aujourd'hui je vous reçois parce que vous vous apprêtez à publier le 10e tome de l'histoire de France. Nous allons y revenir dans un instant. Et je dois dire que je ne sais pas si on l'attendait ou si on ne l'attendait pas, je ne sais pas où en sont vos lecteurs. Mais ce qui est sûr, c'est que vous avez eu un début d'année, puisque nous ne sommes qu'à la moitié, déjà fort chargé, puisque nous vous avons reçu il y a 3-4 mois, si ma mémoire est bonne, alors que vous reveniez du Mexique et que vous vous apprêtez à faire un jumelage entre la chapelle Basse-Mer et le village d'où était originaire le petit José Sanchez del Rio, donc Saint José Sanchez del Rio aujourd'hui. Ce jumelage est toujours prévu pour le 26 septembre.
Absolument, et nous faisons ça au prieuré Saint-Pierre-Estlien à la chapelle Basse-Mer, et on aura la joie de recevoir le maire de Sahuayo, où a été assassiné le petit San José Sanchez, et avec toute une délégation composée de 17 personnes que nous allons emmener à travers la France, puisque nous allons leur faire visiter Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Chartres, le Mont-Saint-Michel, et plus tard on les emmènera faire un voyage en profondeur en Vendée, en passant par le Puy du Fou, et bien entendu les hauts lieux de mémoire comme Saint-Florent-le-Vieil, etc. Puis on terminera par une journée de commémoration, de jumelage et festive à la chapelle Basse-Mer. Et d'ailleurs, nous sollicitons les gens qui veulent venir y assister en leur demandant de s'inscrire sur le site Mémoire du Futur, qui est le site qui gère la communication du prieuré Saint-Pierre-Estlien.
Très bien. Et alors, voilà qui est dit, et j'espère que les auditeurs de Radio Courtoisie vous auront entendu. On peut s'inscrire jusqu'au dernier moment pour cette journée.
Alors, l'idéal, évidemment, pour des raisons d'intendance, c'est de s'inscrire le plus rapidement possible. Et l'idéal est que les inscriptions soient achevées le 31 août 2026, parce que derrière, il y a un énorme travail, notamment pour mettre en œuvre la réception et tous les problèmes liés à cela, c'est-à-dire les problèmes d'intendance. Et bien entendu, s'il y a des gens qui veulent nous aider financièrement, qu'ils n'hésitent pas à nous faire des dons sur le même site. Alors, on peut se poser la question de savoir pourquoi le jumelage se fait à la chapelle Basse-Mer. Parce qu'à la chapelle Basse-Mer a été érigé le mémorial de l'extermination de la Vendée militaire, et c'est au sein de ce mémorial qu'il y a tout un ensemble qui rappelle les événements de 1793-1794, non seulement à la Chapelle-Basse-Mer, mais aussi sur l'ensemble du territoire de la Vendée militaire, c'est-à-dire le département de la Vendée, le département des Deux-Sèvres, le département du Maine-et-Loire et bien entendu le département de la Loire-Inférieure, appelé aujourd'hui Loire-Atlantique. Donc là, il y a un site à la fois immense, mais aussi prestigieux, puisqu'il conserve en son sein un certain nombre d'éléments liés à cette répression, comme par exemple un hôtel qui a été l'hôtel du recteur Pierre-Marie Robin, c'est-à-dire le recteur qui assumait les tâches d'être le prêtre réfractaire de la chapelle Basse-Mer. Et puis on a un certain nombre d'autres choses, comme par exemple une fresque de 60 mètres de long sur 2 mètres de haut, qui a été faite par un Américain et qui raconte toute l'histoire des guerres de Vendée et du système d'extermination et d'anéantissement, avec une statuaire extraordinaire réalisée par le grand sculpteur Daphné du Barry, qui représente par exemple les noyades de Nantes ou le recteur Pierre-Marie Robin, d'autres autrement statues qui ont été dédiées aux chefs vendéens et qui ont été faits en marbre de Carrare, etc. Donc un site immense et prestigieux et qui se fera la joie d'accueillir les gens qui viennent commémorer l'histoire avec nous, c'est-à-dire le bicentenaire un peu plus de guerre de Vendée de l'extermination et le centenaire de la Christiada.
Alors, laissons là, si je puis dire, le Mexique. J'espère que nous vous retrouverons nombreux le 26 septembre prochain à la chapelle Basse-Mer. Et puis, pour ceux qui le souhaitent et qui ne l'auraient pas déjà fait, je vous engage à écouter sur Radio Courtoisie ou à regarder, si vous le préférez, sur la chaîne YouTube de Radio Courtoisie, l'émission que nous avions faite avec Reynald Secher le 11 mai dernier, si ma mémoire est bonne, à propos justement du Mexique, des liens qu'il peut y avoir avec la Vendée et de ce jumelage. Alors ensuite,
si je peux me permettre, oui. Il y a une filiation directe entre la Vendée et la Christiada, parce que le système d'extermination et d'anéantissement de la Vendée s'est basé sur des lois qui ont été prise en conscience partagée par le comité de salut public et votée par l'Assemblée nationale de l'époque, c'est-à-dire la Convention. Or, nous retrouvons la même logique au Mexique avec des lois de nature génocidaire qui ont été constitutionnalisées lors de la Constitution de 1917 qui a été réfléchie par le président de la République de l'époque et mis en œuvre par lui-même, le président Calès, qui a été d'une violence absolument incroyable. Et comme pour la Vendée, ces lois n'ont jamais été abrogées. C'est-à-dire qu'en en fait, elles sont toujours actives. Et comme pour la France, des députés demandent l'abrogation au Mexique. Et bien entendu, le gouvernement s'y refuse.
Ce qui veut dire que, d'une certaine façon, elle pourrait être réactivée très facilement si un fou furieux prenait le pouvoir.
C'est une épée de Damoclès. Je rappelle d'ailleurs que toutes les mesures prises dans le cadre de la loi, des lois 1903, 1905 et 1907 en France n'ont jamais, vis-à-vis du clergé et de l'Église, n'ont jamais été abrogés, qu'il y a beaucoup de tolérance dans notre système politique qui fait qu'il y a toujours une épée de Damoclès sur l'Église de France, je le rappelle tout simplement.
Alors, donc, je crois savoir que par ailleurs, vous avez fait une tournée de conférences dans le nord de l'Italie. Alors, y a-t-il un lien qui se dessine? Est-ce qu'on peut dire que finalement il y a un lien avec beaucoup de pays?
Bien sûr, la Révolution française est une révolution matricielle. C'est la première fois, et pour cause, dans l'histoire de l'humanité qu'un peuple souverain, je répète toujours la même formule, mais c'est essentiel pour comprendre ça, en conscience partagée, décide de créer un homme nouveau. Et pour créer un homme nouveau, il faut passer par l'élimination de l'homme ancien. Et pour ce faire, on va créer une arme absolument incroyable, qui est la loi, qui a une double spécificité. Elle est une et indivisible. Alors, ce qui est vrai au niveau français, au niveau franco-français, est aussi vrai dans le cadre de l'Empire français. Et en fait, cette loi une et indivisible s'est appliquée pareillement en Italie du Nord, lorsque l'Italie du Nord a été intégrée à l'Empire français. Alors ça a des conséquences, bien entendu, à moyen terme et à long terme. Et en fait, il y a tout un travail à l'heure actuelle fait par des étudiants, des professeurs, pour démontrer que la relation qu'il y a eu dans le cadre de l'Empire français entre la France et l'Italie du Nord ne correspond pas à une guerre nationale ou nationaliste, mais correspond à un système d'invasion qui consiste à créer en Italie du Nord un homme nouveau similaire à l'homme nouveau en France, avec toutes les mêmes expériences, les mêmes méthodologies, etc., avec comme finalité de faire un fracas et une sidération pour soumettre ces peuples. Et là, il y a un incroyable travail qui a été fait et qui est en cours. J'ai eu l'occasion de rencontrer, par exemple, un professeur de l'enseignement secondaire qui a fait un travail magistral sur la question, et on n'est pas du tout dans une guerre de conquête de territoire, on est dans une guerre d'expansion idéologique, et ce qui change tout, puisque en fait on est tout à fait dans le domaine, dans le champ opérationnel tel que défini par les procès liés à la Seconde Guerre mondiale, les procès de Nuremberg, etc., qui permettent de définir la nature réelle de l'expansionnisme français, qui n'est pas un expansionnisme uniquement territorial, mais aussi idéologique.
Très bien, ben je pense qu'effectivement, nous aurons aussi des nouvelles dans le futur, je suppose, de ces rencontres que vous pouvez faire à l'étranger et qui viennent corroborer, si je puis dire, vos propres travaux et vos propres recherches.
On a des exemples tout à fait flagrants que nous découvrons. Par exemple, les rapports entre la France impériale et la Suisse qui s'est traduite par une violence absolument incroyable. Et je pense par exemple au Valais, le canton suisse, qui a été décimé par le général chargé de l'extermination et de l'anéantissement de la Vendée, le général Thurot, qui a utilisé exactement les mêmes méthodes avec les mêmes finalités dans le canton du Valais. Vous voyez, en fait, lorsqu'on relit l'histoire de la Révolution française et l'histoire de l'Empire français, comment dire, à l'aune des conventions qui ont succédé à la prise de conscience des événements à la fois communistes et nationaux-socialistes, c'est une nouvelle lecture de l'histoire de France et une nouvelle lecture qui permet de mieux comprendre ce qui s'est passé au XXe siècle à l'échelle de l'Europe, mais aussi à l'échelle du monde, témoin ce que je vous ai raconté tout à l'heure sur le Mexique, qui est vraiment la fille de la Révolution française.
Très bien. Alors, nous allons en venir au sujet plus directement, même si on ne change pas de sujet en définitive. On ne fait que l'aborder d'une autre manière. Donc, au sujet de cette émission, qui est la sortie du tome 10 de l'histoire de France, du tome 10 de l'histoire de France en bande dessinée, que vous avez entreprise depuis un bon nombre d'années, donc vos
27
lecteurs.
ans.
Très bien. Vos lecteurs connaissent sans doute déjà les 9 premiers. Je dis sans doute parce que, comme vous avez publié bien d'autres choses à côté, peut-être qu'ils ne se sont pas intéressés spécialement à l'histoire de France. J'espère que les auditeurs de Radio Courtoisie le connaissent aussi. Et là, donc, nous en sommes au tome 10. Je dis nous en sommes presque, puisque vous êtes en train de mettre la dernière main aux corrections afin de pouvoir le faire imprimer, ce qui sera fait au mois de septembre, justement. Combien, avant d'entrer dans ce tome 10, combien de volumes comptez-vous encore produire ensuite sur cette histoire de France ?
Alors, si vous permettez, je vais m'auto-poser une question. Pourquoi un auteur comme moi, qui suis un universitaire, s'est attaché à faire publier des bandes dessinées ? La raison est tout à fait simple, hein. C'est-à-dire qu'à la fin des années 80, en tant que professeur de l'enseignement secondaire, je me suis rendu compte que les élèves lisaient de moins en moins. Et ils lisaient de moins en moins. À l'époque, le seul cadran qui existait, c'était la télévision, parce que la télévision déjà captait leur attention. Alors après, sont venus, bien entendu, les écrans liés au téléphone, liés à l'ordinateur, à l'iPad, etc. Bon, bref, ça s'est accentué. Bien. Et je me disais qu'il fallait attirer l'attention des élèves. Et pour ce faire, j'ai converti mon livre sur le génocide franco-français, La Vendée Vengée, en bande dessinée. Alors, pourquoi la bande dessinée ? Parce que j'avais fait faire une étude par mes élèves de l'université où j'enseignais, l'université de communication à Nantes, et je m'étais rendu compte que le coefficient de lecture d'une bande dessinée était de 11 lecteurs pour une bande dessinée, alors que le coefficient de lecture d'un livre était de 0,60. Alors, tout ça, ça serait à réactualiser, l'enquête serait à refaire de nos jours, mais à l'époque, c'était ça, les coefficients.
Donc, ça signifie donc, quand vous dites 0,60 pour un livre qui n'est pas une bande dessinée, pour un livre, j'allais dire, normal, 0,60, ça veut dire que dans un certain nombre de cas, presque la moitié, l'acheteur ne lit pas le livre qu'il achète.
Alors, ce n'est pas forcément l'acheteur, parce que bon nombre de livres sont offerts en cadeau.
Oui, ou le possesseur, en tout cas.
C'est un nombre considérable. À l'époque, on s'était rendu compte parce qu'on avait dissocié, en fait, l'acheteur direct et le lecteur qui reçoit le livre. Et on s'était rendu compte qu'une partie, je n'ai plus le chiffre exactement en tête, mais c'était de l'ordre de 30-35% de livres qu'on consommait était le fruit d'un cadeau.
Bien. D'accord.
Et le fruit du cadeau est rarement lu, c'est comme ça, c'est un fait. Lorsque d'ailleurs on offre un livre, on sait parfaitement qu'il a peu de chances d'être lu. Par contre, s'il est acheté, il correspond à un désir de la part du lecteur potentiel, et donc la lecture suivra. Bien, ça, ce sont des données objectives.
Mais donc, ça n'est pas vrai de la bande dessinée ?
Ce n'est pas vrai de la bande dessinée, et la bande dessinée a d'ailleurs plusieurs autres caractéristiques. Donc, le coefficient de lecture est de 11%, mais aussi la bande dessinée est conservée au sein d'une famille. Elle n'est ni donnée, ni jetée, hein, elle est conservée et transmise. Les bandes dessinées sont transmises. Alors, à ça, il y a des raisons tout à fait simples, parce que c'est facile à ranger, ça ne prend pas trop de place. Et puis, c'est la Madeleine de Proust. Hein. Quand on lit une BD, on est attaché à cette bande dessinée. Et comme on y est attaché, on la conserve dans le cadre des déménagements où on la transmet. Et donc, la dimension culturelle et sentimentale de la bande dessinée n'est pas du tout la même que celle du livre, qui est volumineux, quasiment inaccessible, etc. Bon, donc c'est un constat que j'avais fait et j'avais traduit effectivement mon livre « Le génocide franco-français, la Vendée vengée » en bande dessinée, et c'est un énorme succès populaire, à la fois direct et indirect. Alors pourquoi je fais cette distinction directe? Parce que c'est le fruit de l'achat, hein, c'est-à-dire on achète la bande dessinée, on la partage au sein de la communauté familiale, et aussi indirect parce que à l'époque, cette bande dessinée avait été publiée par un certain nombre de journaux ou de revues comme Famille Chrétienne, par exemple. Et là, ça a eu un impact considérable, d'autant plus que cette BD est rentrée dans un monde qui ne connaissait pas forcément la bande dessinée, qui était plutôt d'ailleurs naturellement réservé. Et en fait, c'était un phénomène pour le développement de la bande dessinée historique. Et par la suite, j'ai continué ce travail en publiant la bande dessinée sur la chouannerie. Et après, j'ai fait un certain nombre de biographies comme Napoléon III, Bonaparte, Charlemagne, Louis XIV, Henri IV, etc. Alors, pourquoi l'histoire de France? L'histoire de France parce que je pense que c'est un peu dommage que les Français ne connaissent pas leur histoire de France. Et c'est vrai qu'ils ont du mal à aborder les livres sur la macro-histoire. Et Dieu sait qu'il y a de très, très bons livres en la matière, parce qu'en fait, ces livres sont souvent complexes à lire. Bon. Et donc, je me suis dit, je vais faire ça par la bande dessinée. Alors, faire une bande dessinée historique, synthétique d'une histoire nationale, c'est extrêmement compliqué. Ça demande un travail considérable, aussi bien au niveau de l'auteur que du scénariste, que du dessinateur, que du coloriste, parce que ça, c'est un travail commun qui est réalisé par une équipe. Il faut la coordonner, il faut trouver le bon document, etc. Donc, en moyenne, pour faire une bande dessinée de cette nature, il faut 2 à 3 ans de travail. Donc, ça demande beaucoup de temps, ça demande aussi beaucoup d'argent. Hein. Une bande dessinée historique, en moyenne, ça coûte 50 000 euros. Donc, c'est un investissement considérable. Si on veut faire une bande dessinée de qualité, eh bien, il faut vraiment prendre son temps. Je prends un exemple, tout ce qui est monumental, par exemple, que ça soit le Cromlech préhistorique ou la cathédrale du XVe siècle, eh bien, il faut aller souvent sur place, prendre des photos et les faire reproduire par le dessinateur. Et puis, en plus, il faut faire la synthèse des approches des différents auteurs qui ne sont pas forcément d'accord sur les événements, d'accord sur l'analyse de l'événement. Et donc, en tant qu'auteur, il faut appréhender ces différents courants et puis essayer d'en faire une synthèse qui corresponde au mieux à la vérité historique. Donc, c'est un travail extrêmement complexe et le travail qui a été fait dans le cadre de la 10e BD que vous mentionnez est un travail qui a été un travail minutieux parce que le sujet, c'est la Révolution française.
Alors, je suppose aussi, même si vous ne l'évoquez pas, que ce travail, au moins de la part de l'auteur, demande à faire une sélection parce qu'on ne peut pas, dans une bande dessinée d'une quarantaine de pages, absolument tout rapporter comme on le fait dans un livre qui peut avoir des centaines de pages.
Alors, la bande dessinée a un double avantage. Pour commencer, elle s'appuie sur l'image. Et l'image est le support de communication premier et privilégié. Et à travers l'image, eh bien, on peut faire dire déjà un certain nombre de choses, hein, et des choses essentielles, qui sont des choses visuelles, qui font appel à l'inconscient et au conscient. Et je prends par exemple le cas de l'uniforme. L'uniforme, il est évolutif dans le temps. Évidemment que l'uniforme du poilu de 14-18 n'est pas l'uniforme du soldat romain. Bien. Et puis, entre le soldat romain et l'uniforme du poilu, il y a toute une évolution. Et à travers l'image, on peut montrer cette évolution. Un autre exemple, la cartographie, parce que, en fait, moi, je suis un classique en la matière. Je pars du principe que l'histoire se transmet par quatre piliers. Le premier pilier, c'est bien entendu la chronologie. Sans chronologie, on ne peut pas faire d'histoire. Deuxièmement, c'est la cartographie. La cartographie, c'est essentiel pour faire l'histoire. Troisièmement, ce sont les événements. Et puis quatrièmement, c'est bien entendu les hommes et les femmes qui ont fait cette histoire. Donc, mes bandes dessinées s'appuient sur ces quatre piliers. Mes bandes dessinées correspondent à l'histoire classique et non pas l'histoire que nous avons à l'heure actuelle au sein des établissements scolaires, qui est l'histoire thématique, on peut le dire maintenant, une histoire wokiste. Alors moi, je ne comprends pas du tout ça, je ne comprends pas comment on peut faire de l'histoire sur le thème. C'est une invraisemblance absolue, et c'est pour ça d'ailleurs que nos jeunes scolaires, et les moins jeunes d'ailleurs, ne se sentent plus concernés par l'histoire. Et l'histoire est la clé de l'identité. On ne peut pas s'inscrire dans une identité nationale si on ne connaît pas son histoire. Donc, c'est fondamental. Et c'est pour ça que j'ai fait cette bande dessinée, parce que la bande dessinée est d'un abord facile, et la bande dessinée, c'est avant tout l'image, mais c'est aussi le texte. Alors, le texte, on peut jeter un texte au hasard. Ce n'est pas du tout mon choix. Mon choix a été de travailler la bande dessinée comme on travaille un livre. C'est-à-dire que je le découpais en périodes chronologiques et dans le cadre des périodes chronologiques, je l'ai sous-découpé en périodes liées soit à la chronologie, soit aux événements, soit aux hommes et aux femmes. Et donc, j'ai chapitré chaque bande dessinée et j'ai exprimé ces chapitres d'ailleurs en intitulant chaque page par le contenu de la page. Et en fait, c'est un contenu extrêmement précis, comme un livre. Et d'ailleurs, au début de la bande dessinée, il y a un sommaire qui est lié soit au rédactionnel, à l'image de la bande dessinée, soit à la cartographie. Ce qui fait que, à l'heure actuelle, les professeurs de l'enseignement secondaire ou même au sein de l'université utilisent ces bandes dessinées comme support pédagogique. Et ça, c'est une grande victoire pour moi.
Alors, ce tome 10, vous l'avez dit, il porte sur la Révolution française, une période qui est d'une importance capitale pour nous encore aujourd'hui. Il porte plus exactement sur un quart de siècle qui s'étend de 1789, soit les premiers balbutiements de la Révolution en œuvre, jusqu'en 1814, à la veille de la Restauration, avec le départ de Napoléon Bonaparte à l'île d'Elbe. Quand nous avons préparé cette émission, c'est vous qui en avez choisi le titre, vous m'avez donné comme indication une nouvelle approche de la Révolution française à la lueur du droit international. Alors, ce seul titre amène de ma part deux questions que je vais vous donner l'une après l'autre pour ne pas les mélanger, si je puis dire. Une nouvelle approche de la Révolution française. Est-ce que vous voulez dire que c'est une nouvelle approche par rapport à ce qui se dit habituellement, ou est-ce même une nouvelle approche par rapport à vos propres travaux?
Alors, si vous permettez, je vais essayer d'expliquer comment on écrit l'histoire. En fait, il y a, grosso modo, deux grandes possibilités. La première possibilité, c'est en règle générale la méthode qui a été appliquée par nos universitaires français, c'est-à-dire qu'on a une idéologie en tête, une idéologie républicaine, une idéologie idéologique, etc. et on va prendre dans l'histoire les éléments qui vont illustrer cette idéologie. Et d'ailleurs, c'est cette méthode qui s'est imposée à la recherche française, à la recherche scientifique, puisque celle-ci est principalement dirigée par les marxistes et les républicains pro-révolutionnaires. Bien. La deuxième méthode, c'est celle véhiculée par les historiens dits classiques, dont on a eu un certain nombre d'auteurs qui se sont imposés. Je pense par exemple à Hippolyte Taine, je pense plus récemment à Jean Meyer, Flavier, etc. Bien. C'est-à-dire que eux, c'est pas du tout une démarche idéologique qu'ils retiennent, c'est une démarche basée sur le document, rien que le document. Bien. Et cette nouvelle lecture de l'histoire scientifique a donné un certain nombre d'œuvres majeures, comme tous les travaux qui ont été faits sur la Vendée dans les années 86, et qui ont permis de voir qu'à l'intérieur d'une pseudo-guerre civile telle qu'il y a pu y avoir entre la Vendée et la France, et la France et la Vendée, il y avait autre chose. Et cette autre chose qui était non définie aussi bien par les contemporains que par les historiens du 19e et 20e siècle, parce que non lisible, non compréhensible, eh bien, ça a pu être lisible et compréhensible grâce à toutes les conventions de droit international qui ont été passées après la Seconde Guerre mondiale et qui ont permis une nouvelle lecture de ces événements et surtout la compréhension de ces événements. Et je retiens le cas de la Vendée. La Vendée, jusqu'à mes travaux, elle est réduite à une simple guerre civile. Et cette réduction est aussi bien le fait des bourreaux, puisqu'on utilise maintenant cette terminologie pour parler de députés de l'Assemblée nationale, et plus précisément de Robespierre, de Carnot, etc., que des victimes, c'est-à-dire les Vendéens. Et lorsque on a cette lecture, lorsqu'on monte sur la table de l'histoire, comme je dis, eh bien, on va voir que, en fait, au-delà des événements, il y a une mécanique juridique qui a amené les hommes politiques qui ont pris cette décision d'extermination et d'anéantissement à légiférer. Et c'est un cas unique, hein, dans l'histoire de l'humanité, à légiférer et à mettre en œuvre des lois d'extermination et d'anéantissement. Et ça, ça peut être cerné, défini, que parce qu'il y a eu, après la Seconde Guerre mondiale, des hommes courageux qui ont décidé de sanctionner ces criminels contre l'humanité qui avaient agi tant en Union soviétique qu'en Allemagne nationale socialiste. Et pour ce faire, ils ont défini de nouveaux crimes comme les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide. Et ces définitions de nouveaux crimes qui sont imprescriptibles, donc rétroactives, ont permis justement une nouvelle lecture des guerres de Vendée et à travers cette nouvelle lecture de la guerre de Vendée, une nouvelle lecture de ce qui s'est passé en France durant cette période. Je prends un exemple. Comment appeler la volonté ouvertement exprimée et légalisée d'éradiquer l'Église française entre 1790 et 1799? Bien. On n'a pas de mots pour cela, parce qu'en fait, on ne s'imagine pas que cette éradication passe par un meurtre de masse, c'est-à-dire qu'on va éliminer le prêtre, non pas pour ce qu'il a fait, mais tout simplement parce qu'il est. Et on va prendre des mesures légales qui vont conduire au meurtre systématique du prêtre parce qu'il est, ou à sa déportation, ou à son emprisonnement, y compris d'ailleurs au niveau du pape, Pie VI. Eh bien, comme personne n'a eu cette approche tout au long du 19e et 20e siècle, et comme les jugements, la jurisprudence liée à la Seconde Guerre mondiale permet de définir ce crime, eh bien, je vais le dénommer et je vais nommer ce crime un clergicide. Parce que, en fait, ce crime d'État qui a été conçu, mis en œuvre et légalisé par l'Assemblée nationale, la Convention, avec comme seule finalité d'éradiquer le clergé. Et comment on appelle ça? Eh bien, il n'y a pas de mot, il faut le créer le mot. Eh bien, c'est le mot clericide, comme on a créé le mot de régicide pour l'élimination du roi parce qu'il est roi.
Alors, vous avez un peu pris d'avance sur ma seconde question. Je vais pourtant essayer de la reprendre, et peut-être de la reprendre en plusieurs fois d'ailleurs, à propos du droit international. Ma première question, c'est que cette nouvelle lecture par un droit survenu longtemps après, plus d'un siècle après les événements que vous étudiez, est-ce qu'il ne risque pas, d'une certaine façon, d'y avoir une sorte d'anachronisme?
Non. Non. Alors, il y a deux dimensions. D'abord, ces lois, donc ça veut dire la lecture des événements, elle est rétroactive et imprescriptible. Bien. Et d'ailleurs, c'est au nom de cette rétroactivité et de cette imprescriptibilité qu'on a jugé rétroactivement les crimes commis par l'Allemagne nationale socialiste entre 1933 et 1944-45. C'est-à-dire que la Convention de Nuremberg, par exemple, qui se réunit en 1946-47, rétroactivement donne des mots, qualifie, juge et sanctionne. C'est une mesure rétroactive. Donc, ce qui est vrai pour 10 ans l'est aussi vrai pour 200 ans. D'autant plus que l'idéologie émettrice est la même. C'est-à-dire créer l'homme nouveau, les mots sont les mêmes, hein, créer l'homme nouveau, et pour ce faire, eh bien, on décide soit de régénérer la population qui est réservée ou hostile, soit d'éliminer la population qui est résolument hostile. Donc le concept est le même, c'est l'objet qui est différent. Il n'y a aucune différence fondamentale entre l'idéologie soviétique, communiste, l'idéologie révolutionnaire française ou l'idéologie nationale socialiste. La finalité commune est bien de créer l'homme nouveau. Et tous ceux qui sont hostiles à cette régénération, eh bien, doivent être soit régénérés, soit éliminés. Donc, c'est vraiment très simple en termes de déchiffrement. Bien. Donc, il n'y a pas d'anachronisme, mais au contraire, ça permet de mieux analyser les événements. Je prends des exemples précis. Lorsque la Convention décide de rayer de la carte un village parce que celui-ci a arraché un arbre de la liberté et que la volonté révolutionnaire est non seulement d'éliminer la population, mais aussi de rayer de la carte de France ce village, est-ce que c'est un crime de guerre ou un crime de génocide, parce que on tue les habitants du village, non pas pour ce qu'ils ont fait, mais pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire anti-révolutionnaires. Bien. Eh bien, là, on cherche un mot, hein, et le droit international a défini le crime de génocide local. C'est tout récemment, et ça nous permet effectivement de dénommer le crime, parce que on sait bien que ce qui s'est passé à Bédouin, par exemple, ce n'est pas ce qui s'est passé à Oradour-sur-Glane, parce qu'Oradour-sur-Glane, c'est vraiment lié à des circonstances locales. C'est un crime de guerre atroce, bien sûr, mais c'est pas un crime de génocide. Tandis que ce qui s'est passé à Bédouin l'est, comme ce qui s'est passé, par exemple, à Lyon. Comment on appelle ça? Un citécide. C'est le mot qui permet une bonne lecture de l'événement. Et lorsqu'on a les bons mots, et lorsqu'on se rend compte qu'un système a érigé en système politique, militaire, etc., l'idée, un concept révolutionnaire qui consiste à éliminer l'autre, les autres, pour ce qu'ils sont, quel que soit ce qu'ils sont, et non pas pour ce qu'ils ont fait, eh bien, ça permet de mieux analyser la nature même du régime, ce qui nous permet de dire que le régime mis en place par la Révolution française, et je pense notamment à la Convention, sont des régimes qui ne sont pas du tout démocratiques, ce sont des régimes totalitaires de nature génocidaire. Vous voyez, ça, c'est une nouvelle lecture.
Oui, alors, j'entends l'idée juridique, si je puis dire. Du moins, il me semble, d'un point de vue plus philosophique, que la rétroactivité pourrait, un jour ou l'autre, poser problème. On pourrait arriver à définir comme crime quelque chose qui ne l'était pas il y a 500 ans et qui, au contraire, était dans la loi courante et décider de condamner des gens pour ce qui était à l'époque tout à fait normal. Il y a quelque chose d'un peu effrayant dans cette idée de rétroactivité.
Alors, je sens le philosophe, je suis un juriste et un historien. Je ne suis pas un philosophe, moi. Et donc, ça ne change rien au fait de ce qui s'est passé. Mais par contre, la compréhension de ce qui s'est passé permet, un, de rétablir une vérité. C'est le cas de la Vendée. Pourquoi les Vendéens n'auraient pas le droit de savoir ce qui s'est passé chez eux? Et deuxièmement, ça permet justement de se servir de l'histoire comme laboratoire pour éviter que ce genre de choses ne se renouvellent pas. Je vous prends un exemple précis. Gracchus Babeuf, le père du communisme, a eu une conscience absolument incroyable de la nature des événements qui se sont passés en Vendée. D'ailleurs, c'est lui qui a créé le néologisme populicide, qui est un très bon mot d'ailleurs, qui est un mot meilleur que le mot génocide, qui est un mauvais mot, et parce que c'est un mauvais mot, il a fallu le définir, et d'ailleurs, il faut toujours le définir, parce que les racines ne correspondent pas à ce que l'on veut dire. Et en fait, c'est le droit qui permet d'imposer le génocide comme concept de crime contre l'humanité. C'est un mauvais mot. Le bon mot aurait été le mot populicide. C'est un mot simple de compréhension. Et donc, Gracchus Babeuf, qui est un témoin oculaire, qui, lui, cherche désespérément dans le vocabulaire français un mot de l'époque, 1794, un mot pour définir le crime commis en Vendée. Il ne l'a pas. Donc, il crée ce néologisme populicide. Si on avait eu ce mot, si on l'avait transmis, ça aurait permis de détecter, d'analyser, de cerner les crimes commis par Talat Pacha, par exemple, vis-à-vis des Arméniens, les crimes commis par Lénine, puis Staline, en Russie, en Union soviétique, les crimes commis par Adolf Hitler, etc. etc. Et en fait, c'est le défaut de mots qui empêche la compréhension de la véritable nature des événements, et c'est le défaut de mots qui empêche justement la dénonciation. Et lorsqu'on accuse Charles de Gaulle, Winston Churchill, le pape Pie XII, de ne pas avoir dénoncé les crimes commis par les Allemands vis-à-vis des Juifs, etc., mais parce qu'ils l'ont fait, mais ils l'ont fait de manière contemporaine. C'est-à-dire, comme ils n'avaient pas le mot génocide, ils ont parlé de crimes monstrueux, etc. On ne peut pas leur reprocher cela. Le mot n'existait pas. Le mot n'a été créé qu'en 1943. Il ne s'est imposé que dans les années 50. Donc, l'anachronisme, là, n'est pas dans le fait lui-même. Il est dans le fait que, en fait, on ne peut pas cerner la véritable nature des mots, parce que c'est le mot qui rend lisible l'acte et qui permet de le définir.
Très bien. Alors, nous sommes à la moitié de l'émission. Nous allons écouter le Bobino et puis nous une petite pause et nous reprendrons tout de suite après.
Vous êtes près de 2 millions à nous écouter, mais moins de 20 000 à donner. Pourtant, la gauche veut nous bâillonner. La gauche veut nous tuer. Répondez avec 1 euro. 1 euro pour garantir vos idées. 1 euro contre la censure. 1 euro pour rester libre. Faites un don sur soutenir.rc.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Par avance, merci.
Voilà, nous étions, si je puis dire, juste avant la révolution, juste avant la période qui nous intéresse, avec ce bref extrait de Handel, l'ouverture des feux d'artifice royaux, pour les feux d'artifice royaux. Voilà, on était juste avant la période qui nous intéresse, mais bon, c'est une musique qui me sied bien, donc je pensais que c'était une pause possible. Donc, nous revenons, Reynald Secher, à notre propos. Et donc, je voulais vous faire préciser un point quant à cette nouvelle lecture par le biais du droit international. Donc, ce droit international qui est postérieur aux événements que vous étudiez actuellement, enfin, dans ce tome 10 en tout cas. Vous dites que ça permet une lecture pour comprendre ce qui s'est passé. Je l'entends. Je me demandais, les acteurs, parce que vous avez beaucoup parlé des victimes, mais les bourreaux, les acteurs, ceux qui ont décidé de ces crimes, eux avaient bien conscience de ce qu'ils faisaient.
C'est pour ça qu'ils le font.
Oui, mais donc, eux, ils n'avaient pas besoin du droit international pour comprendre comment ils agissaient. Il n'y a que les victimes qui n'avaient pas compris.
Oui, justement, c'est ça qui est fondamental dans le cadre de cette nouvelle lecture. Tout à l'heure, vous m'avez dit que j'ai surtout parlé des victimes. Pas du tout, justement. Je n'ai parlé que des bourreaux. Parce que, justement, on ne parle pas des victimes dans le système, parce qu'on a héroïsé dans l'histoire tel qu'on nous l'a imposé, les bourreaux, c'est-à-dire ceux qui sont en possession du pouvoir, ceux qui décident de la loi. Hein, parce que l'arme de la révolution, c'est la loi qui est une et indivisible, que l'on subit toujours d'ailleurs. Hein, regardez ce qui s'est passé dans le cadre du Covid, etc. Et d'ailleurs, c'est le problème auquel vont se heurter les Corses dans le cadre de leurs revendications, parce que la République française est une et indivisible. Et jamais les Corses, si on ne remet pas en question la Constitution française, pourront accéder à une certaine autonomie malgré les dires du président Macron. Bien. Donc là, ça permet une nouvelle lecture au niveau de l'acte lui-même, mais aussi des acteurs. Ça nous permet de voir que le bourreau est un véritable bourreau, mais aussi que le paria, celui qui a été dénoncé parce qu'opposant au régime, parce que traite à la patrie, etc., dont on a fait un renégat, est justement le véritable héros. Parce qu'il a une double légitimité. D'abord, il a la légitimité proprement dite, c'est-à-dire le droit de se battre pour la liberté. Donc, c'est quelque chose qui est primordial pour l'homme, c'est saint Thomas d'Aquin. Bien. Et puis, deuxièmement, on voit justement que la loi va contre lui, et lorsqu'il se bat contre la loi, il a une démarche légaliste, justement, et ça permet de redéfinir exactement la véritable nature de fait, et de voir que l'histoire, le mémoricide que je dis, qui a fait, dans le cadre du narratif, qui a fait du bourreau la victime et la victime le paria, eh bien, ça permet de redonner, à travers cette lecture, d'imposer la vérité des événements.
Mais si le bourreau savait, était conscient de l'acte qu'il posait, pourquoi a-t-il fallu attendre le droit international pour le comprendre? Je suppose qu'on a les documents de ces Robespierre, de tous ces gens qui ont commis ces crimes ou les ont fait commettre. Si leur volonté est exprimée, on aurait pu comprendre plus tôt ce qu'ils voulaient faire.
Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il y a deux façons de faire l'histoire. Il y a l'approche idéologique, c'est-à-dire qu'on a une idéologie et on va prendre dans l'histoire les éléments qui vont illustrer l'idéologie. Je prends un exemple précis. On veut mettre à bas la monarchie et on veut imposer la République. Donc, on va créer un narratif pour dire que l'ancien régime, c'est la noirceur et que le nouveau régime, c'est la lumière. Et on va prendre les événements qui illustrent ça pour montrer que le roi est un barbare, est un tyran, etc., et que la République, elle est bonne et généreuse. Donc, on va gommer à l'intérieur des événements révolutionnaires tout ce qui va à l'encontre du discours. Et c'est pour ça que, jusqu'en 1980, la Vendée n'est pas un sujet historique au sein de l'université, parce que, justement, ça prouve l'inverse de ce que l'on veut dire. Donc, on a gommé, tout simplement, et on a idéalisé la Révolution. On a fait du bourreau des héros qui se sont battus pour la France, pour la nation française, contre les barbares étrangers qui ont envahi son territoire. Mais on ne va pas dire que ce sont les Français qui ont déclaré la guerre au reste de l'Europe pour imposer au reste de l'Europe leur idéologie révolutionnaire. Donc, on a gommé la réalité des événements. Bien. Et lorsque vous parliez tout à l'heure de mon voyage en Italie, c'est ça justement que l'on met en avant. C'est-à-dire que la Vendée, la guerre européenne de la Révolution française et aussi de l'Empire n'est pas une guerre territoriale de monarque à monarque, c'est une guerre idéologique qui veut imposer le concept de l'homme nouveau et qui passe par la même méthodologie, les mêmes moyens, etc. Eh bien, c'est ça que nous permet le droit international, une nouvelle lecture des événements. Et donc, pourquoi c'est nouveau, ça? C'est nouveau parce que jusque dans les années 80, on avait idéalisé, dans le cadre de l'histoire officielle, une histoire nationale. Je prends un exemple. On a fêté lors de du bicentenaire, le bicentenaire de la République française. Ça n'a aucun sens, puisque la République française, elle est née en 92, mais elle est morte en 97. Elle a ressurgi en 1848, mais est morte en 1851, etc. Donc, en fait, durant ces deux ans, il y a eu d'autres régimes en France, et d'autres régimes qui n'étaient pas républicains, bon, etc. Donc, on a créé un narratif de toutes pièces. Il suffit de lire les livres scolaires pour s'en rendre compte. Grâce au droit international, on monte sur la table de l'histoire et on a une nouvelle lecture de l'histoire et une lecture juste qui fait bien, qui ramène la réalité des événements. Bon. Lorsque on décide de tuer l'autre parce qu'il est autre, c'est fondamental parce que ça démontre que la Révolution française est un régime idéologique de nature totalitaire et de nature génocidaire parce qu'il élimine systématiquement tous ses opposants parce qu'ils sont. Voilà, c'est ça que ça permet.
Très bien. Alors, j'ai reçu plusieurs questions d'auditeurs donc, qui suivent bien cette émission. Je vous lis la première. Cher Rénal Sécher, pouvez-vous confirmer si, je cite de mémoire, c'est bien Camille Desmoulins qui a écrit que le 13 juillet 1789, il n'y avait pas 2% de révolutionnaires à Paris, ce qui voudrait dire que les Parisiens, ou les Français, étaient à 98% soit royalistes, soit apolitiques. Merci pour votre réponse.
Alors, je ne sais pas si c'est Camille Desmoulins, mais je retrouve les mêmes propos chez un certain nombre, excusez-moi l'anachronisme, de leaders révolutionnaires. C'est bien là le problème qui a parfaitement été défini par Hannah Arendt. C'est-à-dire que toutes ces révolutions sont faites par une extrême petite minorité. C'est ce que veut nous dire notre auditeur. C'est aussi vrai en Russie, en Union soviétique, en Allemagne, en Chine, etc. Et pourquoi est-ce que cette extrême petite minorité s'impose ? Parce que, justement, elle utilise comme principe de gouvernement le principe de la terreur et du fracas. Et c'est cette violence que nous subissons, d'ailleurs, à l'heure actuelle. C'est cette violence qui tyrannise la grande masse de la population et qui est sidérée et qui accepte les choses. C'est un phénomène parfaitement étudié, compris et qui est omniprésent dans tout ce genre de système. Voyez.
Alors, question suivante. Ne pensez-vous pas que la reconnaissance du génocide vendéen sera l'ouverture à la reconnaissance de tous les génocides et donc la dénonciation de toutes les manipulations, de tous les manipulateurs puissants du monde entier?
Alors, si vous permettez, je vais revenir à votre remarque tout à l'heure pour expliquer la mécanique de la terreur et de l'effroi. Tout le monde connaît l'affaire du 14 juillet, de la prise de la Bastille, qui est un non-événement. Non-événement. Louis XVI avait décidé de démolir ce bâtiment qui était vétuste. Alors, c'est dommage parce que ça aurait été, en termes touristiques à l'heure actuelle, un monument exceptionnel. Bien. Et donc, il a décidé de le détruire. Donc, c'est un non-événement. Mais à l'intérieur de l'événement, il y a quelque chose d'essentiel. L'événement est le suivant. On va décapiter le gouverneur. On va décapiter le prévôt des marchands. On va décapiter un certain nombre de soldats. C'est quelque chose d'inimaginable, c'est quelque chose d'indicible qui a créé un effroi global, notamment de tous les détenteurs du pouvoir. Et ces détenteurs du pouvoir vont remettre leur pouvoir au roi. Et jusqu'au 14 juillet, il y avait des corps intermédiaires entre le roi, qui est une personne sacrée, et le peuple. Lorsque tous ces corps intermédiaires qui sont effrayés parce qu'ils ont peur de subir le même sort, se démettent de leur charge. Eh bien, le roi est en contact direct avec le peuple. Si bien que comme il n'y a plus de paratonnerre, c'est le cas par exemple entre le président de la République et le peuple, il y a un paratonnerre qui est le chef du gouvernement, c'est-à-dire le premier ministre Bien, c'est un fusible. Eh bien là, il n'y a plus de fusible. Eh bien, ça permet de mieux comprendre la journée du 5 octobre. Ça permet de mieux comprendre, eh bien, tout ce qui se passe par la suite. C'est-à-dire que, en fait, l'exécution du roi est liée directement à la prise de la Bastille. Non pas à la prise de la Bastille proprement dit, mais par le fait qu'on ait décapité le gouverneur, etc. Vous voyez, cette lecture de l'histoire permet de mieux comprendre en fait les événements. On les connaît, les éléments de cette histoire, mais on les analyse pas, on ne les analyse pas à leur juste dimension. Alors pour revenir à votre question, là, bien entendu, ça nous permet d'avoir une nouvelle lecture de l'histoire, de mieux cerner les événements. Et ça permet justement de mieux comprendre l'histoire. Ça permet de mieux comprendre pourquoi on en est là à l'heure actuelle. Vous voyez? Et c'est ça qui est essentiel, parce que dans le narratif qu'on nous a donné, eh bien, on ne comprend pas à l'heure actuelle ce qui se passe en France. Parce que c'est le fruit de l'histoire, mais à la juste lecture.
Et donc, c'est valable aussi pour les autres, comme le demande l'auditeur, pour tous les autres génocides et pour tous les autres manipulateurs de l'histoire.
Bien sûr, bien sûr.
Je veux dire que si eux, ils ont reproduit ce qui a été fait, nous pouvons, avec cette lecture, reproduire la marque de la vérité sur chacune de ces histoires.
Lorsque Lénine appelle Vendée tous les lieux qu'il doit éradiquer, c'est que lui, il a une juste lecture de l'histoire. C'est-à-dire, lorsqu'il va en Vendée en 1910, il comprend la nature des guerres de Vendée. Et c'est pour ça qu'il va l'appliquer, je dirais, systématiquement dans le cadre de sa conquête du pouvoir en 1917.
Mais lui n'a pas eu besoin d'attendre le droit international pour ça.
Non, parce que en fait, il s'inscrit dans la logique de Babeuf. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard si Babeuf a été le philosophe de référence de ce régime.
Très bien. Alors, j'ai une autre question ou remarque. Les auditeurs vous remercient de votre présence en direct sur les ondes de Radio Courtoisie. Merci beaucoup. Je suis devenu royaliste, plus monarchiste avec le temps et au vu de ce que j'ai compris au fil des ans de la manipulation orchestrée par les acteurs de la Révolution française. Monsieur Sécher, vous êtes très courageux. Comment peut-on vous aider? De quelle manière on peut suivre vos démarches salutaires pour la reconnaissance du génocide vendéen? Le génocide vendéen a été programmé par les révolutionnaires et ses responsables et doit être reconnu par les autorités françaises, l'Europe et les institutions internationales comme telles.
Alors, c'est une question précise. Comment est-ce qu'on peut m'aider? Alors, il faut savoir, pour commencer, que, excusez-moi l'anachronisme du mot, je suis boycotté, effectivement, par les masses mainstream, que je suis boycotté par l'enseignement. Pire, lorsque je fais des interventions dans les écoles, ça a été le cas de la rectrice de Bordeaux lorsque j'ai fait une intervention à l'école d'Immaculée Conception de Pau. Elle dénonce l'intervention au sein de cet établissement privé sous contrat, ce qui est absolument incroyable, hein. D'un révisionniste. Bien, la diffusion est extrêmement difficile puisque je ne suis pas distribué dans les grandes librairies. Je suis distribué que dans les librairies religieuses. Alors comment peut-on m'aider? Ben comment on peut m'aider? Simplement en allant m'acheter mes livres sur mon site Reynald Sécher Édition. C'est-à-dire que c'est mon seul support de vente réelle, hein. Donc si vous voulez m'aider, aidez-moi à me diffuser, allez sur mes sites, acheter mes livres. Et puis deuxièmement, si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à distribuer mes livres autour de vous. J'ai des personnes qui ont des idées extraordinaires, c'est-à-dire qui m'achètent des livres pour les donner aux écoles privées hors contrat. Ça, c'est une bonne initiative. Donc, c'est ce que je conseille de faire. Troisièmement, c'est d'aller visiter ce que j'ai réalisé, comme le musée des guerres de l'Ouest à Pleurnel, à l'entrée de la presqu'île de Quiron, ou d'aller voir le mémorial de l'extermination de la Vendée à la chapelle Basse-Mer. On fait une journée le 26 septembre pour commémorer ce qui s'est passé dans le cadre de la Crisiada au Mexique, de venir et participer. Vous voyez, il y a des actions très concrètes que l'on peut faire. C'est pas compliqué, hein, les choses. Vous savez, c'est l'addition de ronds dans l'eau. Vous savez, quand vous jetez une pierre dans l'eau, et ben il y a des ronds. C'est ça qu'il faut faire. Vous savez, quand vous donnez une BD comme cadeau d'anniversaire ou autre au sein d'une famille, eh bien, c'est le rond dans l'eau, c'est-à-dire que celui qui reçoit la bande dessinée, eh bien, il va permettre aux membres de sa famille de la lire, et puis eux-mêmes vont en parler à l'extérieur, etc. C'est ça, le rond dans l'eau. Donc, soyez acteurs, c'est-à-dire n'hésitez pas à jeter la pierre dans l'eau.
Et alors, la deuxième partie de la question, c'était comment être tenu au courant des démarches que vous entreprenez dans cette
alors,
logique.
Vous avez deux sites pour cela. Vous avez Reynald Secher Éditions. Là, vous suivez l'évolution de la production intellectuelle qui est la mienne. Puis, deuxièmement, au niveau des événements, vous avez le site Mémoire du futur de l'Europe. Et là, vous avez un suivi de tous les événements qui sont liés à ma personne ou à d'autres, d'ailleurs, hein. Tout ce que l'on peut faire, soit à l'étranger. Par exemple, cette année, comme vous le disiez, j'ai beaucoup voyagé en Suisse, au Mexique, en Italie. C'est intéressant d'ailleurs de voir que le sujet de la Vendée et le sujet de la Révolution française concernent une addition de pays circonvoisins à la France qui ont été touchés directement dans les événements et qui essayent de comprendre ce qui leur est arrivé, mais aussi sur d'autres continents parce qu'ils ont subi, je dirais presque directement, les effluves de la Révolution française. Et c'est vrai que la constitution actuelle du Mexique, qui est une constitution rédigée en 1917, est liée directement à la Révolution française. Et les Mexicains qui ne le savaient pas et qui m'ont appelé pour essayer de comprendre ont découvert qu'ils étaient fils de la Révolution française avec les mêmes fracas, les mêmes sidérations, les mêmes événements, etc. Parce que l'idéologie est toujours la même, quels que soient les continents, quels que soient les systèmes politiques qui la véhiculent.
Alors, cette révolution fait donc l'objet, enfin, ce n'est pas la première fois que vous l'évoquez, ce n'est pas le premier livre sur le sujet que vous écrivez, mais donc fait donc l'objet de ce tome 10 de l'histoire de France, qui donc va se poursuivre, je suppose, encore sur quelques périodes.
Et on suivre trois autres volumes. Cette collection comportera 14 volumes.
Donc quatre autres, alors.
Oui, quatre autres, oui. Donc, excusez-moi, je dis, parce que j'ai fini le 11e. Ah. C'est pour ça que je disais trois autres. Oui, il y a quatre autres après le volume 10.
D'accord, donc jusqu'à nos jours.
C'est un énorme travail, hein. Ça va être un travail de 30 ans.
Mmh. Et vous vous arrêterez à l'époque actuelle?
Je m'arrêterai à l'élection du nouveau président en mai 2027.
Ah, donc vous n'allez pas l'écrire tout de suite. Très bien. Dans le même temps, je ne sais pas exactement, mais pour ceux qui pourront y accéder, c'est dans le même temps où vous produisez ce tome 10, dont je rappelle qu'il sera accessible à partir du mois de septembre, mais qu'il sera sans doute possible de précommander prochainement sur le site des éditions.
On peut le précommander, hein, en allant sur notre site. Et d'ailleurs, je sollicite justement nos auditeurs pour qu'ils précommandent, parce que ça va nous donner la trésorerie pour financer l'impression. Donc, n'hésitez pas à en réserver plusieurs et à les distribuer. Alors, le contenu de la bande dessinée, si vous permettez, Olivier. En fait, ce contenu se décompose en deux grandes parties. Et ça aussi, c'est nouveau dans l'analyse de la Révolution française. Alors, je vais utiliser un mot d'architecte que je n'aime pas, mais qui correspond bien à la situation. C'est-à-dire que dans cette bande dessinée, je vais démontrer qu'il y a une déconstruction de l'Ancien Régime. Et cette déconstruction se fait par étapes. Et ce qui est très intéressant, c'est que Louis XVI, qui est un homme remarquablement intelligent, comprend cette mécanique. Il ne sait pas, parce qu'il ne va pas connaître l'étape suivante, ce que cela va entraîner, mais il comprend qu'on déconstruit l'Ancien Régime. Et ça se fait par étapes. Et puis, deuxièmement, la construction d'un régime nouveau, d'un monde nouveau. Et cette construction d'un monde nouveau prolonge la terreur de la déconstruction. Ça forme un tout, je dirais presque logique, normal, naturel, qui passe par deux grandes phases. Et en fait, le roi Louis XVI a compris, après les événements liés à la Bastille, qu'il était condamné à mort. Et en fait, il va le dire très tôt, c'est ce que je raconte dans cette bande dessinée, parce que la politique de la terreur qui se traduit par l'effroi et la sidération commence bien le jour du 14 juillet 1789. Et en fait, ça va s'achever, on peut le dire, avec Waterloo. Donc, c'est bien les deux choses qui sont mises en perspective. Et c'est ça qui est nouveau. Je peux vous dire que l'introduction, je l'ai vraiment travaillée pour exprimer tout cela.
Alors, je disais que vous n'avez pas chômé ces derniers mois. Il se trouve qu'en dehors de ce tome 10 de l'histoire de France, vous produisez également un documentaire vidéo sur Lyon 1793, documentaire qui sera lui aussi disponible à compter du mois de septembre. Pourquoi Lyon 1793?
Alors, à côté de la maison d'édition consacrée pour l'essentiel à la bande dessinée, j'ai un studio de réalisation de documentaires. Or, j'ai fait déjà un certain nombre de documentaires, comme l'histoire de la Bretagne en 4h30, ça n'avait jamais été fait, l'histoire de la Vendée et du génocide, l'histoire de la virée de Galerne, l'histoire de la chouannerie, un certain nombre de choses. Et là, je me suis dit, tiens, c'est intéressant de faire une histoire de Lyon. Ça n'a jamais été fait. Alors, cette idée s'est imposée à moi en 2015. Évidemment, tout ça coûte très cher, ça demande beaucoup d'argent. J'ai commencé le tournage avec mes deux complices, Gérald Nimal et Ronan Manuel, ceux qui, avec lesquels j'ai fait le documentaire sur la virée de Galerne et la chouannerie. On a commencé à rédiger le scénario et à tourner les images en 2019 et 2020. Puis il y a eu le Covid, nous avons dû nous arrêter et on a repris et fini le tournage au printemps dernier. Et donc je vais corriger les épreuves, excusez-moi pour l'inappropos du mot, mais c'est ce que l'on dit, mardi prochain. Et en fait, le film sera terminé mardi prochain et il sera mis à la disposition du public au mois de septembre. Et donc, vous pouvez, là encore, le précommander sur mon site Reynald Secher Édition. Et là aussi, n'hésitez pas à en commander plusieurs et à les distribuer autour de vous, parce que si vous voulez vraiment m'aider, eh bien, permettez-moi, donnez-moi les moyens de me faire connaître, puisqu'on ne sera pas distribué dans les librairies, on ne sera pas présenté dans les médias mainstream, etc. Et permettez-moi de me donner les moyens financiers.
Et alors, Est-ce qu'en deux mots, vous pouvez nous dire à quoi correspond Lyon 1793? Je dis alors, en deux mots aussi, parce que nous n'avons plus qu'une dizaine de minutes.
Alors là aussi, c'est une nouvelle approche de l'histoire que je propose. Tout à l'heure, nous avons parlé de la Vendée. On a découvert la véritable nature de ce qui s'est passé en Vendée. Enfin, j'ai découvert qu'en 1983-85, le public a découvert ça en 1986, lors de l'apparition de mon livre « Le génocide franco-français, la Vendée vengée ». Et en fait, j'ai finalisé ce travail dans le cadre d'un livre que j'ai publié en 2012 qui s'appelle « Vendée du génocide au mémoricide ». Parce que j'ai essayé d'expliquer ce quatrième crime de génocide, c'est le crime contre la mémoire que j'appelais « mémoricide ». Bien. Et donc, là, en voyageant à travers la France pour mes conférences, je me suis rendu compte que je le savais intellectuellement, bien entendu, mais j'ai découvert sur le tas, sur le terrain, que partout, il y avait eu des actes terroristes, du fracas, et lorsque je parle aux descendants de ceux qui ont subi ce fracas, eh bien, du même traumatisme. Et j'ai voulu prendre l'exemple d'une ville, en l'occurrence, c'était Lyon. Et là, je suis allé à Lyon préparer ce film, donc j'ai pris contact avec un certain nombre de personnes, soit des personnalités inscrites dans le paysage politique, administratif, culturel de la ville de Lyon, mais aussi au niveau des descendants qui sont réunis dans une association qui s'appelle Association 93, Lyon 93. Et là, je me suis rendu compte que, au-delà du concept, il y avait une réalité, et cette réalité était similaire à celle que j'avais rencontrée, dénoncée, reconstituée en Vendée, c'est-à-dire un acte premier de génocide qui s'est traduit par un fracas immédiat, mais aussi par un fracas sur le long terme. Et en fait, lorsque les fondateurs de l'association Lyon 93 décident de se constituer en association pour le bicentenaire, c'est parce que ils sont les relents de cette sidération et de ce fracas. Et lorsqu'ils analysent rétroactivement l'histoire, ils se sont rendus compte que en 1893, on avait fait un certain nombre de cérémonies à la gloire de la Révolution française pour héroïser les héros révolutionnaires et que on avait oublié les victimes. Eh bien, là, cette association a décidé de rappeler la réalité de l'histoire et de rappeler la justesse du combat des gens qui ont résisté à la tyrannie de l'époque, et c'est pour ça qu'ils ont créé cette association. Alors, cette association est une association remarquable, parce qu'au-delà de rappeler la réalité des événements, ils font exactement ce que les Arméniens ont fait, ou les Vendéens après 1799 ont fait, ou même ce qu'ont fait les victimes des bourreaux mexicains dans le cadre de la Cristiada au Mexique, c'est-à-dire qu'ils ont collecté les histoires familiale, et ce collectage s'est traduit par une impression et une publication d'ouvrages. Et en fait, je vais rentrer, grâce à ces collectages, dans la profondeur de la réalité de l'histoire lyonnaise, ce qui m'a permis de faire ce film d'une heure. Mais après ce film, nous allons continuer. C'est-à-dire que je vais investir, par exemple, pour raconter l'histoire de Bédouin. Et au-delà, nous allons faire un film pour rappeler la véritable nature de la Révolution française et, en fait, rappeler tout simplement que les héros de notre système à l'heure actuelle sont des bourreaux, des tortionnaires, et que les véritables héros de la Révolution, eh bien, ce ne sont pas les héros officiels, mais ceux qui ont été rejetés de l'histoire officielle, c'est-à-dire les parias, les Lyonnais réfractaires ou le Vendéen, ou même le Basque qui a été déporté, etc. etc.
Alors, d'après ce qu'on peut savoir, ou d'après ce que vous dites, il semble que à Lyon, à Bédouin ou ailleurs, c'est toujours un peu la même mécanique. Est-ce que vous arrivez à trouver des éléments qui permettent de diversifier, j'allais dire, ce travail et ce que vous annoncez vouloir faire dans l'avenir?
Alors, en fait, il y a deux niveaux. Pour commencer, il y a le niveau premier, c'est-à-dire il y a un groupe d'hommes qui s'est constitué à partir d'une idéologie. L'idéologie, c'est la création de l'homme nouveau, et qui vont se donner une arme, la loi, une et indivisible, et des moyens, la terreur. Donc, c'est toujours la même mécanique matricielle qui va être appliquée en Vendée, dans le Pays Basque, en Corse, en Savoie, dans le Berry, à Lyon, etc. Donc, mais ça va prendre des expressions différentes sur le terrain. C'est-à-dire que au niveau des victimes, il va y avoir des réactions différentes pour des motivations différentes. Par exemple, la motivation des réactionnaires lyonnais n'est pas celle des réactionnaires chouans ou des réactionnaires vendéens, bien, ou des réactionnaires corses ou des réactionnaires savoisiens. Bien. Donc, là, c'est tout à fait clair. Puis, il va y avoir des moyens, c'est-à-dire qu'il y a des moyens spécifiques d'élimination à Lyon que nous ne retrouvons pas en Vendée. En Vendée, vous avez grosso modo 6 moyens d'élimination de masse, qui sont la noyade, le sabrage, l'exécution par balle, etc. À Lyon, il y a d'autres moyens. Alors, il y a des moyens qui sont extrêmement connus, comme les canonnades de masse, c'est-à-dire que on rassemble les gens par 50 et puis on va les canonner avec de la mitraille. C'est quelque chose d'atroce. Et justement, on a des témoins oculaires de l'époque qui racontent dans le détail le fruit de cette atrocité. Et puis, il y a les noyades, etc. En fait, c'est essayer de comprendre ce qui s'est passé localement, mais l'idéologie est toujours la même. On élimine l'autre parce qu'il est autre, c'est-à-dire qu'on va éliminer le Lyonnais parce qu'il est fédéraliste, on va éliminer le Vendéen parce qu'il est royaliste, on va éliminer le Chouan parce qu'il est breton, on va éliminer le Savoisien parce que justement il est pro Piémont, etc., etc. On va éliminer le Corse ou le Basque, parce qu'ils veulent sauver leur identité. Vous voyez, on élimine l'autre parce qu'il est autre. Voilà. Et en fait, la finalité, c'est de réaliser un documentaire synthétique qui va faire la synthèse de toutes ces différentes démarches locales pour mieux comprendre la nature du régime totalitaire qui était celui de la Convention. Et d'ailleurs, ça porte ses fruits, parce que qui ose, à part Mélenchon, faire de Robespierre un héros, c'est extrêmement difficile maintenant de parler de la Révolution française sans parler du génocide, ce qui remet en question, bien entendu, la véritable nature de la Révolution française.
Eh bien, Rénal Sécher, je vous remercie. Nous arrivons à la fin de cette émission. J'ai un dernier message qui n'a pas de rapport direct, mais je vais le lire tout de même. C'est bien de nous parler d'histoire, mais on voudrait savoir ce que vous pensez de l'excommunication de la fraternité Saint-Pédis. D'ailleurs, la retransmission a été supprimée ce matin. Allez-vous lui substituer une autre paroisse traditionnaliste? Alors, je ne sais pas ce qu'a prévu la direction de Radio Courtoisie, parce que depuis les sacres et l'annonce de l'excommunication, je n'ai pas été informé de la décision de ce que fera le président de Radio Courtoisie à ce sujet, donc je ne peux pas répondre sur ce point. Quant à ce qu'il en est de l'excommunication, il faut dire que la seule chose qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'elle était prévisible dans la mesure où c'était une excommunication laté sententiée, dans ce cas, dans le cas de sacre en dehors de la volonté et du mandat pontifical. Donc, elle est ipso facto, donc il était logique qu'elle soit, elle est de fait, quoi. Il n'y a pas d'autres possibilités. Bon, l'annonce est assez rude et on peut le comprendre. Moi, ce qui me paraît une bonne chose, c'est que manifestement, il continue à y avoir certaines discussions. Il y a toujours des échanges entre, pour faire court, Écône et Rome. Il y a toujours des textes qui circulent. Je ne sais pas s'il y a des rendez-vous. Peut-être qu'il y aura des rendez-vous. C'est possible. Je ne suis pas au courant et j'espère bien ne pas être au courant parce qu'il me semble que la seule façon que cela se passe correctement, eh bien, c'est que tout le monde n'y mette pas son grain de sel et que ces messieurs, j'allais dire, donc les responsables de la fraternité Saint-Pédis comme le pape à Rome ou ceux qui le chargent de cette question, le fassent dans la tranquillité nécessaire à ce genre de discussion. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Eh bien, je vous remercie, chers amis auditeurs, voire téléspectateurs, si vous nous regardez plus tard sur la chaîne YouTube, de nous avoir accompagnés. Je remercie Reynald Secher de nous avoir répondu. Je remercie Jocelyn d'avoir réalisé cette émission. Et je vous dis pour ma part au 2 août, qui malheureusement, compte tenu de mon agenda, sera une émission qui sera retransmise, elle sera préenregistrée, mais comme je vous le dis toujours, n'hésitez jamais à m'envoyer des messages par email, je tâche dans la mesure du possible d'y répondre. À bientôt.
Vous venez d'entendre le libre journal de Lumière de l'Espérance, dirigé par Olivier Figueras, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, dimanche 5 juillet 2026, de midi à 13h30, et réalisé par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr. Et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.